Bonjour et bienvenue sur Nouvelle Narration, le podcast qui raconte la création numérique. Je m'appelle Benjamin Auguet et je vais à la rencontre de celles et ceux qui imaginent de nouvelles façons de nous faire vivre des histoires. Vous aurez peut-être déjà remarqué que dans ce podcast, on parle assez souvent de ce qui se passe mal, des péripéties qui frappent les projets et les carrières. Ce qui pose nécessairement la question de la résilience de celles et ceux qui portent les œuvres numériques, de leur capacité à encaisser les coups durs, à capitaliser sur les onces d'espoir et les instants heureux pour retrouver de la motivation dans la tempête. Certains projets sont d'ailleurs frappés de tant d'aléas qu'ils n'auraient rationnellement jamais dû voir le jour. Rationnellement, il aurait été plus facile de dire que les conditions n'étaient pas réunies, les étoiles mal alignées, les forces du destin contraires. Rationnellement, il aurait mieux fallu passer à autre chose. Mais la création n'est pas faite que de raison. Les Passagers, une expérience de fiction interactive en réalité virtuelle, fait partie de ces projets qui ont défié les probabilités. 6 ans après la proclamation de l'idée originelle, l'œuvre existe. Le projet a eu 1000 occasions de dérailler, mais c'était sans compter sur l'abnégation de son équipe, et notamment de sa productrice, Oriane Hurard. Bonjour Oriane.
Tu me reçois chez toi parce que ben pandémie, tout ça, travail à la maison, mais dans la vie tu es productrice. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais ?
Je suis productrice dans le champ de ce qu'on appelle un peu communément les nouvelles écritures, les écritures immersives, et plus spécifiquement, je me suis un peu spécialisée ces 4-5 dernières années dans la production d'œuvres narratives en réalité virtuelle, qu'elles soient interactives ou non, et qu'elles soient en animation ou en prise de vue réelle. J'ai rejoint en 2015 une société qui s'appelle Les Produits Frais, qui a été fondée et gérée par Damien Lagoguet et qui était à cheval vraiment sur le cinéma et l'audiovisuel traditionnel et le département entre guillemets que je dirigeais, qui était dédié à toutes ces nouvelles écritures et chants un peu innovants et technologiques. Et après 5 ans, donc à développer plusieurs projets en toute quasi-indépendance et quasi presque autarcie, j'ai rejoint il y a quelques mois, société Atlas 5, qui existe depuis 2018, qui est une société parisienne également, fondée par 4 producteurs bien connus du secteur et qui se déploie beaucoup à l'international via des coproductions ou des partenariats, notamment de distribution et de financement.
D'où tu viens ? Comment tu t'es retrouvé dans ce bourbier-là de la création numérico-interactivo-immersive ?
C'est une très bonne question à laquelle je ne sais pas forcément répondre. J'ai commencé, moi, à 14 ans, en décidant que je voulais faire du cinéma.
Ok. Comme actrice, comme productrice, comme...
Plutôt derrière la caméra.
Okay.
Je pense que le terme de production, de productrice, m'échappait totalement à l'époque.
Okay.
Donc, c'était au tout début des années 2000. J'avais découvert un peu le cinéma. J'allais beaucoup au cinéma avec mon papa. Et ensuite, au lycée, j'avais la chance d'avoir un petit lycée de province à Carpentras. Et le cinéma de la ville, le cinéma d'art et d'essai de la ville était en face du lycée. Donc dès que je pouvais, j'y allais avec la bénédiction de mon père qui est aussi très cinéphile. Et à tel point que quand j'ai fait une mini-crise d'adolescence comme nous tous, où j'ai séché les cours de sport, leur punition, ça a été de me priver de cinéma pendant un mois.
Ah,
donc on était à ce niveau-là de cinéphilie. Et puis j'ai finalement fait des études, d'abord Hippocagne, option cinéma, puis cinéma à la Sorbonne Nouvelle, donc sur des études très théoriques, mais j'ai quand même réussi à approfondir un peu ma connaissance des métiers du cinéma à ce moment-là, et c'est là que j'ai découvert que je voulais faire de la production, parce que ça recouvrait, à mon sens, à peu près toute l'intégralité de la chaîne de la création, depuis l'idée jusqu'à finalement la sortie, l'avant-première, mais aussi ensuite l'exploitation, voire même en... les multiples exploitations qu'on peut avoir en cinéma. Et puis, est arrivé le moment où j'ai passé le concours de la FEMIS, que j'ai échoué 2 fois, et je me suis dirigée finalement vers un second concours que j'ai eu à peu près au même moment, qui était l'INA, donc Master Production Audiovisuelle à l'INASUP. Évidemment, j'ai appris le métier de production là-bas, en tout cas les bases, et j'ai aussi découvert plein de choses. J'ai découvert qu'il n'y avait pas que le cinéma. J'ai découvert qu'il y avait du documentaire, qu'il y avait de la fiction télé, que tout ce qu'il y avait à la télé n'était pas bon à jeter. Et surtout, en 2008, on a participé avec ma promotion à un festival qui s'appelait Festival des 4 écrans, qui se passait à la BNF à l'époque. Et j'ai assisté à une conférence de Joël Ronez sur le transmédia. Mmh. Et ça m'a... je pense que j'ai eu une sorte de révélation, okay, d'épiphanie. Le côté où l'ampoule se met à finalement briller au-dessus de ma tête, c'est exactement ça. Et c'est là où je me suis dit, ok, je sais ce que je veux faire, et je saurais pas trop, voilà, pourquoi exactement, mais je me suis dit que ça mêlait aussi tout ce côté très éclectique, parce que j'avais, en plus du cinéma, j'avais continué à beaucoup lire, je faisais du théâtre, j'ai fait aussi une licence d'histoire en même temps que mes études de cinéma, donc il y avait aussi ce côté un peu pluridisciplinaire qu'on retrouve en fait maintenant dans nos activités.
Ouais. C'est quoi ton premier projet ? De la sorte, on va dire.
Alors après mon master, mon premier stage, ça a été à la Générale de Production, ouais, aux côtés de Jérémy Pouilloux et de son associé Alexandre Allier, où j'ai énormément appris. Et juste après, j'ai été embauchée pour ce qui a été donc mon premier emploi, qui était comme une sorte de community manager créatif chez Apifani, une petite société, qui s'occupait d'un projet transmédia avec Orange et le romancier Alexandre Jardin. Donc c'était une sorte de feuilleton quotidien qui s'appelait Fanfan 2 et donc qui prenait un peu la suite du roman Fanfan qui a fait connaître Alexandre Jardin, et où la fiction c'était essentiellement textuel, avec quelquefois un peu d'images et à la fin une sorte de conclusion vidéo, mais c'était essentiellement du texte tous les jours sur Twitter, Facebook et une appli créée par Orange et qu'on gérait également. Okay. Et on était deux community managers à plein temps et avec ma collègue Sonia qui, elle, venait du CELSA, qui avait donc une formation très com et qui savait ce que c'était finalement le community management, alors que moi, j'improvisais finalement en venant de la production, mais en ayant quand même des capacités rédactionnelles, je me mettais dans la peau des personnages. Chaque semaine, on avait une réunion avec l'auteur, on lui faisait des comptes rendus de ce que la communauté avait pensé et il réécrivait les textes de la semaine suivante en direct. Donc on avait vraiment une sorte de dynamisme de finalement de la fiction participative, de la fiction interactive, et c'est là que ça a finalement commencé et que je me suis dit un projet où il y a à la fois du créatif, un peu quand même de gestion de prod, de suivi, parce que ça a duré 7 mois, cette fiction quasi quotidienne, et puis finalement du lien quasi instantané avec le public. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Et après ça, j'ai continué à faire un peu de community management, toujours pour des projets finalement culturels, pour Arte, pour la Générale aussi, des choses comme ça.
Il y a une dimension clairement déjà créative dans ce que tu fais, mais dans le sens où toi-même, tu crées des choses et pas seulement produire les œuvres d'autres. C'est quelque chose qui t'a toujours titillé ou t'aimes bien trouver un équilibre entre création perso et production, éventuellement avec des équipes autres ?
C'est assez difficile de faire les deux. Il y a des gens qui arrivent très bien, qui peuvent se produire eux-mêmes. Ensuite, écrire, réaliser, produire et produire les autres, je trouve ça assez difficile, ne serait-ce que parce qu'on est encore dans un secteur qui est tout petit et où, par exemple, quand il faut déposer un dossier au CNC ou envoyer tel projet à Arte, France Télévisions, si toi tu développes un projet et que tu développes aussi le projet d'un autre auteur, va se poser la question de quel projet tu priorises, quel projet tu vas déposer à ce fond. Quel projet tu vas pitcher au détriment de l'autre, en fait. Et moi, j'ai un projet en cours d'écriture qui date un peu, mais ça va être ma marque de fabrique, je crois, de faire des projets qui prennent des années à se faire, qui est un projet personnel, puisqu'il est basé sur des pérégrinations que j'ai fait sur des applications de rencontres. Donc, voilà, il est très personnel et je ne vois pas vraiment quelqu'un d'autre l'écrire ou le réaliser. On a été soutenus, j'ai décidé de ne pas me produire, donc je travaille avec Darjeeling sur ce projet. On a fait un prototype et puis là, avec les récents événements dans ma vie professionnelle, le projet un petit peu en suspens, tout simplement parce que j'ai pas le temps. Et va se poser la question sérieusement, effectivement, de qu'est-ce que je fais de mes envies créatives qui existent au fond de moi à un moment donné et qui ont envie de s'exprimer et qui, en général, trouvent quand même leur accomplissement dans les projets des autres.
Ouais.
Parce que moi, je conçois pas la production comme un métier purement financier ou gestionnaire. Être productrice, c'est aussi accompagner les projets, mais des fois au stade juste d'une idée. Les passagers, ça a été ça. Ça a été une idée au départ, lancée au milieu d'un esprit festif de festival à Genève. Il y a eu Faisons de la VR, faisons ça dans un train, faisons ça avec des personnages. Et finalement, voilà, le projet 6 ans après a émergé. Mais voilà, moi, c'est ça que j'aime, c'est finalement lire les versions, tester les prototypes, se rendre compte que ce concept art, il est bien, mais il va pas exactement dans la direction. Et donc, il faut refaire, il faut recommencer, il faut réitérer finalement. Et Et voilà, donc c'est cette partie-là, cette partie très créative du métier de producteur et de productrice, elle me satisfait complètement, j'y tiens beaucoup. Et après, sur des projets plus personnels, là, il faut que je leur trouve la bonne place, en fait.
Comment ça se passe, le démarrage chez Les Produits Frais, donc tu disais en 2015 ?
En fait, moi, entre finalement après la générale de production où j'ai quand même bossé quelques années un peu de manière sporadique sur des projets, j'ai aussi entamé une activité qui était, on va dire, proche de la curation d'événements, puisque Jérémy Pouillou a fondé l'événement I Love Transmedia en 2012 et je l'ai accompagné sur les 4 premières éditions. J'ai aussi entamé une collaboration avec le festival Tous Écrans à Genève qui s'appelle maintenant le GIF, qui a été un des premiers en Europe à montrer de la réalité virtuelle. Et j'ai aussi travaillé avec le Forum des images à Sérimania, à la programmation des web-séries. Donc finalement, j'avais ces trois événements comme ça, qui étaient répartis dans l'année, qui me prenaient pas mal de temps et qui, surtout, m'ont fait grandir, même en tant que productrice, parce que je voyais toute la production internationale dans notre domaine, qui est quand même assez pointu. Donc voilà, pendant longtemps, j'ai un peu tourné autour. Et puis après, à un moment, je me suis dit, en fait, il faut que je me lance, en fait. Et finalement, c'est aux Produits Frais que ça s'est fait. Et c'est 2016, finalement, la vraie bascule où je me dis, en fait, pour réussir en tant que productrice, il faut faire que ça. Parce que c'est un métier qu'on fait à 100%, voire à 200% de son temps. Et donc, en fait, je ne peux pas faire d'autres activités en même temps. Je continue à faire quelques interventions, des cours, des choses comme ça, mais en fait, beaucoup, beaucoup moins qu'avant.
Cool, on va revenir effectivement sur l'épopée des produits frais, parce que notre fil rouge, ça sera un peu ce projet, Les Passagers, qui t'a fallu donc 6 ans pour produire, donc un épisode a priori qui sera intitulé « Ne rien lâcher » ou « Je lâche pas l'affaire, on lâche rien » ou « Je serai toujours là dans 6 ans à vous parler du même truc jusqu'à ce qu'il se passe ». Donc passons à notre thème, « Ne rien lâcher » et on va parler des passagers. Les passagers, c'est ton projet un peu serpent de mer, pas pour dire qu'il fait peur, mais pour dire que ça a été un long combat de 6 ans. Est-ce que tu peux nous présenter, nous pitcher un peu les passagers dans leur forme finale? Parce que j'imagine que c'est pas forcément la même que celle du départ, mais déjà dans leur forme finale, c'est quoi les passagers?
Je voulais juste te reprendre, c'est pas forcément un combat qui a duré 6 ans, il y a eu des phases un peu combatives, il y a eu des phases un peu complexes, mais je dirais plutôt que c'est un long voyage. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, 6 ans après, le pitch, à peu de choses près, est toujours le même. En fait, c'est 4 passagers qui ne se connaissent pas, qui se retrouvent dans un train, dans un carré de 4 voyageurs. Ils sont assis côte à côte ou face à face. Et ils ont par contre un point en commun, c'est que tous, à des degrés divers, font face à un moment un peu charnière de leur vie. Et que le chapitre d'une dizaine de minutes qu'on propose pour chacun de ces passagers va leur permettre de régler un petit peu certains de ces démons intérieurs.
Elle t'a regardé là, non ?
C'est à ça que tu penses quand tu me regardes ?
Pourquoi les adultes sont jamais contents ?
Ça sert à rien de se souvenir.
Dès qu'on dit qu'on ne veut pas d'enfants, tout le monde présume qu'on ne les aime pas. Quel manque d'imagination !
Donc c'est un projet qui a une base très psychologique, très dramatique au départ. Et qui est donc une expérience VR interactive et multi-utilisateur finalement, puisqu'on propose finalement 4 chapitres proposant chacun le point de vue d'incarner un de ces 4 passagers de ce train.
Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, notre train va entrer en gare. Veillez à ne rien oublier. Merci.
C'est ça. Je vais veiller à ne rien oublier.
Donc c'est pour 4 personnes réunis dans un carré, des 4 vrais spectateurs qui incarnent 4 personnages.
Au départ, c'était conçu même pour être vécu dans des trains en circulation. On a même fait des tests avec la SNCF, ou en tout cas dans une scénographie qui reproduirait un carré de train et qui pourrait être déployé dans des gares, mais aussi dans des musées, dans des festivals. Donc on était vraiment dans quelque chose de très in situ. Et on voulait même, en termes de taille, il y avait même cette envie de faire les mêmes proportions qu'un carré de train. Donc on se touche les genoux et on se touche les coudes, je ne sais pas si vous voyez, quand on est en deuxième classe du moins. Et ça, voilà, il y a eu aussi une pandémie qui est arrivée au moment où on finalisait la production du projet et où la distanciation sociale est devenue de rigueur. Donc c'est encore un nouveau challenge qui va se poser là, maintenant que commencent un peu les diffusions publiques du projet. Mais oui, la première idée du projet vraiment est née fin 2014, vraiment toute fin 2014. Donc le moment où la réalité virtuelle, en tout cas sous la forme telle qu'on la connaît aujourd'hui, venait d'arriver. Le casque Oculus, c'était encore le DK1, donc le kit développeur. Donc on était vraiment très précurseurs dans le domaine, et on s'est dit, waouh, les gens vont pas forcément avoir tout ce matos, il fallait des ordis aussi, des câbles, etc. Vont pas forcément avoir tout ce matos chez eux. Il faut proposer des expériences un peu singulières. Et au festival où on était, donc qui était le festival à Genève où je m'occupais de la section interactive, il y avait ce projet qui s'appelait Dog House, où c'était une table de dîner et dans chaque assiette un casque. Mmh. Et là c'était de la vidéo, c'était pas interactif, mais chaque donc spectateur allait incarner un des membres de cette famille, un des convives de ce repas. Et comme c'est des Danois, c'était un peu à la festen, donc ça tournait pas très bien. Mais il nous a beaucoup inspiré. Et donc quand je dis nous, c'est que vraiment à ce festival, donc fin 2014, il y avait Yako, donc Jean-Christophe Yacono, créateur interactif québécois, et Camille Duvelroy, qui étaient tous deux dans mon jury d'expérience interactive. Et il y avait Nicolas Peufaï, qui est scénariste, lui, plutôt venant du cinéma et de la télévision classique au départ, qui était dans le jury série télé. Et en fait, on s'est retrouvés à faire Dog House tous en même temps. Mmh. Et on s'est dit, waouh, faut en faire quelque chose, c'est incroyable. Et Yako donc vit au Québec depuis 20 ans ou 30 ans maintenant, mais ses parents vivent à Clermont-Ferrand, et donc lui il se souvenait toute sa jeunesse de faire des Paris Clermont-Ferrand en train. Camille Duvelroy, elle vit à Toulouse, donc elle fait souvent des allers-retours à Paris en train également, et donc il y avait toutes avaient cette culture du train qui leur a donné envie de se dire le train c'est un moment à part, c'est un moment où notre flux de pensée et finalement presque pas interrompu, il est ininterrompu quand tu te laisses bercer par le paysage et par le roulis, le rythme du train, et il est parfois parasité par les gens qui sont à côté de toi ou en face de toi, et sur lequel tu viens aussi poser des pensées, des idées préconçues, des préjugés, parfois des fantasmes aussi. Donc il y avait cette envie d'imaginaire, cette un peu carte blanche, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on a tout et rien dit, c'est-à-dire qu'après il fallait inventer,
remplir tout ça,
une expérience, fallait écrire, etc. Et c'est que, et finalement c'est de là qu'est né le projet.
D'accord. Comment ça devient plus qu'un truc qu'on se raconte dans le festival, parce qu'on s'en raconte des trucs en festival, on se dit oh, faudrait faire ça.
C'est ça, oui. Comment l'alcool, l'alcool suisse.
Ouais, oui, c'est ça. Voilà. On a toujours des idées géniales à 15 000 personnes prêtes à en découdre dès le lendemain. Et comment ça s'est fait pour de vrai, du coup, qui a relancé
chacun
le truc?
Chacun repart un peu de son côté, et finalement quelques mois plus tard, moi je reçois un appel de Yako, donc que je connaissais un peu d'avant aussi, qui me dit je viens à Paris avec Camille et Nicolas, on va faire le tour de la France en train pour brainstormer. Donc on fait un brainstorm mobile. Donc ils ont fait je sais pas combien d'heures de train pour réfléchir, et puis du coup si t'es à Paris quand on revient on pourrait un peu débriefer, voir si t'en as envie. Ça c'était tout début 2015, donc moi j'avais pas encore totalement rejoint les produits frais à 100%, je naviguais encore un peu avec mes différentes casquettes, et moi je dis banco, vous êtes que des personnes que j'aime beaucoup, je vois pas pourquoi ça m'intéresserait pas, et finalement quelques mois après ils sont revenus me voir en disant on voudrait déposer un dossier d'aide au développement, donc il fallait une société de production. Ils avaient trouvé un producteur canadien, j'y reviendrai aussi, et puis c'est l'été 2015 où j'ai aussi sauté le pas et où je me suis dit ça y est, je m'installe au Produits Frais. J'ai eu un bureau physique dans les bureaux des Produits Frais, enfin il y avait voilà quelque chose un peu de qui s'est concrétisé à ce moment-là avec les passagers, qui donc étaient particulièrement importants pour moi. Il m'a tenu particulièrement à cœur ce projet parce que c'était le premier vrai projet que je voulais produire, qui avait en tout cas eu un intérêt du secteur, des financements assez rapidement, etc. Et puis surtout une vraie amitié qui s'est créée, notamment avec Nicolas Peufaï, puisqu'on s'est rencontrés à ce festival, on se connaissait pas avant, et où finalement il y a eu une vraie connivence, intellectuelle, amicale, professionnelle, qui s'est créée à cet endroit-là.
Donc le concept des passagers était développé dans une série de trains, c'est ça que tu disais?
Je pense qu'il y a eu une vraie thématique qui nous semblait intéressante, le train, qui était une thématique, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fois narrative, riche d'histoire finalement, parce que tout peut se passer dans un train, et une opportunité de diffusion. Là où la VR se cherchait encore des modèles d'existence, elle le cherche encore un peu aujourd'hui, mais disons que avec le succès du Quest et la plateforme Oculus et peut-être d'autres plateformes, bientôt, on a un peu déplacé le marché de la VR vers du online. En 2015, c'était encore tout nouveau. Et donc, en fait, on a eu aussi accès très vite au Canada à Via Rail, donc la compagnie ferroviaire canadienne, et ici à la SNCF, finalement très rapidement, parce que eux-mêmes s'intéressaient à la réalité virtuelle, avaient déjà fait des choses dans leur coin, mais qui étaient toujours dans les équipes R&D, sans forcément d'application sur un projet concret. Donc on a eu aussi des intérêts comme ça rapidement, alors qu'on était une équipe encore toute petite. Moi, j'avais jamais fait de coproduction internationale, j'avais jamais fait de projet avec des partenaires industriels, on peut dire, comme la SNCF. Enfin, ça a été tout de suite quelque chose qui nous a peut-être presque dépassé à ce moment-là.
Alors parce que l'implication de la SNCF, pardon, vous avez fait quoi avec eux, en fait?
J'ai fait beaucoup de rendez-vous. Ouais. J'ai rencontré énormément de gens à la SNCF différents. Et on a mis en place des tests. Donc là, on a un peu sauté dans le temps, parce que c'est fin 2017 qu'on a fait des tests de notre premier prototype. On a fait des tests dans une journée dans un Paris-Marseille. C'était un prototype pour deux passagers, pour deux personnes. Et puis, on faisait venir des gens qui étaient intéressés, qui n'avaient rien à faire dans ce trajet, etc. D'accord. Et on regardait un peu on monitorait finalement leur expérience et on faisait remplir un questionnaire. Il y avait quand même 2-3 personnes de la SNCF qui étaient venues avec nous, donc qui nous regardaient, qui regardaient si ça buguait, combien de temps on mettait aussi pour installer le matériel, pour installer le passager. Eux, ils avaient aussi beaucoup de questionnements très logistiques.
Ouais.
Parce que 4 casques, des câbles, 4 ordinateurs, donc 4 unités centrales à mettre sous les sièges. Enfin, tout de suite, c'était
lourd.
C'était lourd, et je pense que c'est ça qui a un peu freiné cette partie-là, en tout cas du développement du projet. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait très différent, parce que si c'était à refaire aujourd'hui, déjà, je le développerais en Quest. Et donc, ça serait beaucoup plus simple, finalement, parce qu'il y aurait juste 4 casques, il suffirait de mettre un antivol, les accrocher au porte-bagages, et puis c'est bon, quoi, entre guillemets. Je simplifie, évidemment, mais... Et du côté canadien, Via Rail nous a financé une partie du dev, un petit peu en numéraire, un petit peu en industrie, avec notamment un voyage, donc un Toronto-Vancouver, donc c'est 4 jours de train, 4 jours, 3 nuits, pour filmer des paysages qu'on a ensuite réintégrés dans notre prototype. C'était ce qu'on devait voir à travers la fenêtre dans le prototype.
D'accord.
Ce prototype était, donc pour 2 personnes, c'était à peu près 5 minutes chacun, mais il était, la grande différence qu'il y a avec le projet aujourd'hui, c'est que c'était en prise de vue réelle. On avait filmé, la SNCF nous avait prêté des vrais sièges d'un TGV Atlantique, et on avait filmé ça sur fond vert, donc avec des tourages de chaque passager. Donc il y avait en fait 4 flux vidéo dans la sphère 360, réintégrés dans Unity, et des phases interactives qui se déclenchaient selon où l'utilisateur regardait.
D'accord.
Puisque c'est tout le principe, c'est si tu regardes l'enfant à côté de toi ou le jeune homme en face de toi, les pensées, le flux de pensée se modifie. Et à terme, l'expérience change aussi. Il y a des petits embranchements, des variations, etc. Et en faisant ce prototype, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à passer outre les jump cuts. Parce que forcément, qui dit vidéo, qui dit plusieurs couches vidéo qui s'enchaînent ou qui se superposent. Enfin, il y avait une question de jump cut. On a essayé du morphing.
Des sauts dans l'image, en fait, qui gênent.
On a essayé plein de choses. Mais c'était lourd, et surtout on avait fait, donc c'était de la vidéo stéréoscopique quand même, pour avoir ce sentiment d'immersion dans le casque, dans la sphère.
Stéréoscopique, c'est-à-dire qui reproduit une sorte de profondeur, de relief.
C'est donc 2 caméras, on avait 2 caméras, ça c'est les stéréographes.
Œil droit, œil gauche, quoi.
Exactement. Voilà. C'est comme ça qu'on filme le cinéma 3D, finalement. Et on avait ces passagers. Et donc, ça faisait des vidéos très, très lourdes, en fait. Donc, c'était un projet qui, déjà rien qu'au stade du prototype, était très lourd. Il y avait des centaines de gigas de données. Aujourd'hui, sur les casques Quest, on parle de maximum 4 ou 5 gigas pour une expérience. Ouais, donc, on en était très, très, très loin. Et puis surtout, on n'était pas satisfait artistiquement, visuellement, ce qu'on voyait, puisque chaque passager avait été ensuite replacé dans un train en 3D. Donc, les paysages tournés au Canada étaient... en 2D, mais placé assez loin, mais c'était de la prise de vue réelle. Donc il y avait un mélange, une esthétique qu'on n'avait pas, et qui est sans doute dû au fait que juste avant de tourner ce prototype, quelques mois avant, on avait eu déjà, on avait les financements du développement. Yako, qui devait réaliser le projet, s'est retiré du projet. Pareil, pour des questions un peu personnelles, d'opportunités notamment professionnelles qui l'ont importé ailleurs. Donc ce remplacement s'est fait juste au début, juste avant le proto, mais ça, je pense aussi, explique en partie pourquoi on a mis aussi longtemps. Puisque finalement, ce proto, on a décidé de le pas de le mettre à la poubelle, parce qu'en fait, notamment les mécaniques d'écriture, tout ce qu'on avait développé, les personnages, l'écriture en branchement, Nicolas te dira qu'il a tout réécrit, et c'est vrai, mais c'était pas perdu dans le sens où ça avait fourni, ça avait aidé toute l'équipe à finalement comprendre ce qu'on voulait, et ça avait quand même...
Et la structure
voilà, reste, on avait bénéficié
part,
des choses, on avait gardé le principe de flashback qui venait en 360, donc qui étaient des moments de respiration qui venaient te sortir du train, parce que sinon toute l'expérience se passe dans le train, et aussi qui venaient éclairer la vie intérieure, le passé du personnage. Donc ça a été développé dans le prototype, et ça on l'a gardé jusqu'à aujourd'hui.
Alors du coup, si les plus gros changements depuis ce prototype ne concernent pas l'histoire, c'est la partie visuelle, expérientielle qui a le plus évolué, j'imagine. Alors, en quoi l'expérience d'aujourd'hui diffère de celle qui était proposée par le prototype?
Aujourd'hui, l'expérience, elle est entièrement en six-doff. C'est-à-dire que tu es toujours assis à ta place, mais tu peux très bien te lever, tu peux regarder sous la table, tu peux t'avancer. Il y a cet effet pleinement d'immersion, parce que les acteurs, finalement, on ne s'est pas contenté de les filmer sur fond vert, on a fait, en fait, mocap et scan 3D. Donc, mocap, c'est capture de mouvement, et on a fait aussi de la capture faciale, donc des mouvements du visage. Les paysages sont aussi redessinés en animation 3D temps réel, le train également. Donc, en fait, on a une expérience qui était, finalement, beaucoup plus homogène d'un point de vue artistique, et beaucoup plus dans l'air du temps. Parce que on est arrivé fin 2017 avec ce prototype, et les gens nous ont dit, mais aujourd'hui, faire un projet VR qui soit interactif et multi-utilisateur, mais sans être six-doff, c'est-à-dire d'être que dans de la 360, ça va être hyper frustrant. Aujourd'hui, les gens, ils sont habitués à se, voilà, à se lever, à se déplacer, voire même à interagir avec des comédiens vivants, parce que c'était un peu à ce moment-là qu'on a vu ce genre de choses. Enfin, donc on a aussi entendu, on a écouté le retour des gens, on a quand même aussi bénéficié de tout cet entourage aussi de ce secteur que moi je trouve très bienveillant. Finalement, moi je trouve qu'il y a quelque chose de collectif, et aussi parce que notre industrie elle est petite, mais qui finalement, bah oui, on se connaît tous, donc ça peut passer de l'extérieur pour un entre-soi, mais je trouve qu'il y a au contraire beaucoup de solidarité et d'entraide, et pour moi qui étais toute jeune productrice à ce moment-là, j'en ai beaucoup bénéficié, surtout donc dans les phases plus difficiles de ce projet.
Et en parlant de soutien, qui est-ce qui a financé, qui est-ce qui vous a accompagné dans tous ces efforts? Dans la réalisation du prototype, mais aussi dans la suite du projet.
Donc, on a eu ce premier financement au CNC Nouveaux Médias. On a eu ce financement dont j'ai déjà parlé aussi au Fonds des Médias du Canada, donc de l'autre côté de l'Atlantique. On a eu également le soutien ici en France de Pictanovo, donc l'agence de financement des projets en Hauts-de-France. On a eu aussi une aide de la bourse Beaumarchais Écriture Format Innovant et le soutien de France Télévisions à l'époque du département des nouvelles écritures de l'époque. Et ce qui est assez drôle, c'est que tous ces financements français que je viens de citer égalaient au seul financement canadien qu'on avait eu en termes de montant. Donc en développement, on était à 50-50. Donc avec mon coproducteur, donc Ziad, on a vraiment travaillé main dans la main. J'ai fait beaucoup plus de dossiers de financement que lui, mais sinon, voilà, on était vraiment à égalité. Et donc, on avait vraiment un développement qui se faisait nativement des deux côtés de l'Atlantique. En général, les coproductions internationales, c'est pas comme ça que ça marche, c'est qu'en général, c'est une équipe créative qui est d'un côté, dans un pays donné, et puis qui, au moment de la fabrication, se dit « j'ai pas assez d'argent, je vais aller en chercher à l'étranger, et qu'est-ce que je peux dépenser à l'étranger, ou quel talent je peux aller chercher à l'étranger pour compléter mon équipe ?» Là, c'était pas du tout ça, puisqu'on avait un duo de créateurs qui était de nature franco-canadien, et donc deux producteurs qui étaient aussi, moi, française, et donc Ziad, canadien. Et est arrivée cette idée de prototype où on faisait tout ce qui était tournage, studio fond vert, et à l'époque donc on faisait détourage et rotoscopie et traitement de la stéroscopie en France, donc sur le territoire des Hauts-de-France, et tout ce qui était vraiment programmation et codage web se faisait chez DPT, donc un studio montréalais qui est assez expert de tout ça. Donc il y avait vraiment, et là on a vraiment respecté ce principe qui est la localisation des dépenses, mais qui était aussi l'idée de faire travailler nos deux écosystèmes quasiment à égalité. Ça a tenu jusqu'à un certain temps, et ensuite ce premier prototype, finalement, on a fait face à une certaine impasse créative, et on s'est tous remis au travail. Et moi, c'est le moment où est arrivé aussi quelque chose qui a quand même changé le futur du projet, qui est que le département des nouvelles écritures a fermé en 2018.
Chez France Télévisions. Hein.
Et quand, je pense, on est arrivé avec notre prototype qui était loin d'être parfait, hein, comme je l'ai dit, on en avait totalement conscience. Plutôt que de nous soutenir, ils nous ont soutenus quand même. Ils nous ont financé un deuxième développement pour la réécriture. Ils voulaient, c'était surtout sur l'écriture. Donc on a retravaillé ça, 4 nouveaux personnages. Enfin, ils ont un petit peu changé, etc. Pour être aussi paritaires, divers en termes d'âge, etc. Il y avait pas mal de réflexions autour de ça. Et puis finalement, France Télé a annulé notre deuxième dev. Enfin, a interrompu notre deuxième dev avant même la livraison. Donc ils ont jamais vraiment lu nos textes qu'ils avaient pourtant recommandés.
Pour une bonne raison.
Pour des raisons que je pense que le projet, ils n'y croyaient plus et que en plus c'était c'était un mois avant qu'on apprenne officiellement la fermeture de l'unité. Donc je te cache pas que ça a été un coup dur.
J'imagine.
Et puis surtout ça a un peu découragé tout le monde. Et dans la foulée, juste après, on n'a pas non plus été aidé par Pictanovo. En production, parce que là, ça suivait aussi développement et production. Ça, c'est les prérogatives de commission. Hein, c'est des commissions et des aides sélectives. Donc, de toute façon, on n'est jamais à l'abri. Il y a toujours un risque. Et c'est pas parce qu'on est aidé en dev qu'on sera soutenu en production. Ça, je l'ai aussi appris du coup à cette occasion. Et voilà. Et maintenant, je trouve que c'est des très bonnes leçons. Ça m'a appris à pitcher le projet, à en défendre, à remettre devant mon ordi, devant les tableaux Excel pour se dire comment on peut faire le projet avec deux fois moins d'argent.
Est-ce que concrètement, c'est ça qui a dû se faire? C'est faire la même chose, mais pour deux fois moins que ce que vous pensiez?
Non, parce qu'on a eu la chance que le Canada nous soutienne et que le Canada, lui, il y a moins de guichets, mais il y a beaucoup plus d'argent. Donc le FMC, FMC, on l'a eu également en production. Et le FMC, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars canadiens. Et on a eu aussi, plus tardivement, parce que là, c'était en 2019, on a eu le soutien de la SODEC, qui est aussi une agence l'équivalent de nos régions, mais qui est le soutien du cinéma et des industries créatives et culturelles du Québec. Qui a permis finalement au projet de se faire. Donc ça, j'en suis infiniment reconnaissante à ce pays et à ces institutions d'avoir cru au projet, mais qui s'est fait avec une puisqu'on est on est entre nous, on peut en parler, mais qui s'est fait avec une conséquence très pragmatique, qui est que la coproduction, qui était à 50-50 à peu près égalitaire au début du développement, est passée ultra minoritaire côté français. Donc 70 pour le Canada, 30 pour la France, qui a été aussi pareil une pilule qui est difficile à avaler en tant que productrice, parce qu'évidemment on fait pas ce métier pour avoir des pourcentages, mais quand on y a passé autant de temps et de manière quasiment pas bénévole, mais finalement très très peu payée au regard du temps passé, parce que c'est des projets qu'on développe et qu'on accompagne sur un temps tellement long que je serais incapable aujourd'hui de comptabiliser le nombre d'heures que j'ai, et en rangeant mon ordi, j'ai quand même vu que j'avais 25 dossiers de financement différents. Ouais. J'ai les 25 versions des fichiers InDesign et des dossiers, et c'est que pour la partie française. Ouais. Donc on se dit, voilà, tout ça pour avoir potentiellement 30% d'un projet dont en plus la diffusion initiale est quand même un petit peu rediscutée avec la pandémie qui finalement nous empêche de nous rendre en festival pour tester ce genre d'œuvre qui nécessite un peu une scénographie, une installation spécifique. Donc le projet a eu aussi une nouvelle aventure là, mais je brûle encore un peu les étapes là.
Quand il y a quelques, et pas des moindres, quelques mauvaises nouvelles qui s'enchaînent, est-ce que il y a un moment où tu te dis bon, c'est bon quoi, on va arrêter là, c'est pas grave, mais enfin si, c'est grave, c'est chiant, mais c'est trop de mauvaises nouvelles d'un coup?
Quand France Télévisions m'a appelé pour me dire qu'ils arrêtaient le projet, je t'avoue que oui. Je t'avoue qu'on m'a conseillé, et des gens dont je respecte beaucoup la vie m'ont conseillé d'arrêter. Ils m'ont dit, je pense que là, t'as moins à perdre d'arrêter que de continuer, notamment si France Télévisions, parce que c'est parfois le cas dans les développements, te demande de rembourser ce qu'ils ont investi en développement. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Ils m'ont laissé garder l'argent. Mais effectivement, si j'avais dû rembourser, moi, c'était l'argent en développement que j'avais dépensé en plus. Ouais. Donc, en fait, à ce moment-là, je mettais presque la clé sous la porte.
Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une étincelle particulière qui t'incite à dire, allez, on continue, on va y arriver?
À ce moment-là, en 2018, Et je pense que c'est quand même grâce à ça que j'ai continué. Entre-temps, moi, j'avais produit L'île des morts de Benjamin Manuel, qui est un projet qui s'était fait en comparaison de manière très rapide, puisqu'on avait répondu à un appel à projet d'Arte, justement, pour dans le cadre de leur collection sur les tableaux de maîtres dans la réalité virtuelle. On avait fait cet épisode donc consacré à un tableau du peintre Arnold Böcklin, et on venait de le terminer. Donc, entre l'appel à projet et la production, et c'était voilà déroulé un peu moins d'un an, et en août 2018 à Venise, on a été pris en sélection, on a fait notre première mondiale à Venise et on a gagné un prix. Et le désengagement de France Télé est arrivé vraiment peut-être un ou deux mois après, donc histoire de bien me faire redescendre et de bien me faire comprendre que
tout n'est pas gagné.
Voilà, il faut rien garder pour acquis, et c'est pas parce que j'ai un prix à mon premier projet produit finalement là toute seule, c'est pas pour ça que maintenant le chemin s'ouvre à moi tout tracé sans aucune ornière. Au contraire, on a déraillé et on a été interrompu. Le voyage a été interrompu sur les voies un certain nombre de fois avec ce projet. Mais c'est peut-être du coup cette nouvelle confiance en moi, ce nouveau projet, avec un nouveau dynamisme qui se réenclenchait, qui, en fait, finalement, maintenant, je l'analyse comme ça, a permis de tenir sur l'autre projet.
C'est ton projet long terme qui est jalonné par les autres plus petits, plus courts, qui te permettent de maintenir une motivation. Ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres mauvaises nouvelles ?
Comme tout projet, j'avais demandé 200 000 euros au CNC, j'en ai eu que 100. Donc tu vois, c'est la vie de tout producteur. On avait demandé en complément du coup après l'aide création visuelle et sonore CVS au CNC, on l'a pas eu. Et la commission ayant été décalée plusieurs semaines par rapport à la date annoncée, on a eu cette mauvaise nouvelle 3 jours avant le tournage. Donc voilà, c'est des choses où en fait on se repositionne, mais ça c'est la vie classique d'un producteur, j'ai envie de dire. On a eu de la chance vraiment d'avoir le Canada dans la boucle et de pouvoir finir le projet dans des bonnes conditions, puisqu'on a tourné à l'été 2019, on a tenu avec ces flashbacks en prise de vue réelle dans la région Occitanie, parce que pareil, quand Pictanovo m'a dit non, et ben j'ai pas lâché, j'ai dit c'est pas grave, je vais aller voir une autre région. Il y a d'autres régions en France, il y a d'autres belles régions, et on a été soutenu par l'Occitanie, on a été accueillis à bras ouverts sur un montant pas énorme, mais qui nous a suffi à financer la partie tournage des flashbacks des personnages là-bas. Et côté canadien, pareil, on a travaillé avec une partie de la même équipe. Et la production, donc le temps de production après la période de tournage, donc à partir de août 2019, elle a duré jusqu'à décembre 2020, finalement. Et là, c'est du temps long. Hein. C'est un développeur à temps plein chez DPT qui a fait toute cette période, qui a fait presque un an et demi sur le projet. Donc là, je pense que si on lui parle de train, il veut plus du tout en entendre parler. Et parce qu'en fait, on a quand même 4 chapitres de 10 minutes d'expérience. Donc ça fait 40 minutes, c'est pas rien. Mais en fait, dans chaque chapitre, il y a aussi pas mal d'embranchements qui fait que il y a plus de contenu à traiter, notamment dans le son, dans toutes les variables à gérer pour le développement et tout ça. Donc ça a été un projet où pareil qui nous a un petit peu dépassé. On avait tous sous-estimé le temps de production finalement derrière. Et donc en beau milieu, en mars 2020 est arrivée aussi la pandémie, qui fait que voilà, on a tous, de toute façon, on savait déjà travailler à distance, mais c'est posé la question de la diffusion effectivement avec ces festivals virtuels, avec notre première fenêtre qui pour nous a toujours été celle du LBE, du in situ, et qui aujourd'hui est un peu mis en pause, parce qu'on réfléchit plutôt à comment porter le projet sur Quest par exemple, qui est un portage qui est faisable mais qui est très coûteux. Donc en fait voilà, on se pose aussi encore plein de questions, donc finalement le travail est pas totalement terminé.
Oui, parce que dans un temps long comme 6 ans, il y a des changements de paradigme technologique, si on veut les appeler comme ça, effectivement. Donc là, ce que tu dis, c'est que maintenant le vaisseau amiral, du fait notamment du Covid, n'est plus forcément l'expérience à 4 personnes en même temps, mais plutôt des expériences individuelles accessibles sur des casques que les gens peuvent avoir à la maison, par exemple, si je dis pas de bêtises.
Oui, en fait, la version online qu'on mettra en ligne, j'espère bientôt, enfin une fois qu'on aura un peu passé le temps des festivals, c'est le fait d'avoir un build, enfin une application dans laquelle les 4 passagers sont au choix et on peut les expérimenter dans l'ordre qu'on veut.
D'accord.
C'est pas la façon que j'avais dont j'avais voilà imaginé le projet, mais encore une fois, au bout de 6 ans, les choses nous échappent. Le projet au départ était très très ambitieux technologiquement sur ce côté voilà multijoueur, les actions de l'un qui vont impacter l'autre pour des raisons de financement et de et de quand même de pragmatisme de la production pour pas que ça aille dans tous les sens, on a dû aussi renoncer à certains éléments. Et aujourd'hui, on a eu des retours de la première fois, on l'a montré aux États-Unis, donc à South by Southwest, de quelques journalistes qui ont pu le voir en ligne, qui nous disent que finalement, ils ont aimé le faire dans leur salon, parce que c'est un projet qui parle d'intime, qui parle de désir profond, et d'oser faire les choses, d'oser dire à voix haute les choses qu'on rumine tout bas, en gros. Et donc finalement, il faut parler à voix haute à certains moments de l'expérience. Et en fait, il y a des gens qui nous ont dit, on serait incapable de faire ça en festival, en install. Et donc finalement, c'est des choses tellement intimes, tellement universelles, qu'on se dit que peut-être, en fait, finalement, les expérimenter tout seul, chez soi, dans son casque, bien tranquillement, c'est peut-être d'autant plus intéressant.
Ok. Un accident de parcours, mais avec une fin heureuse, quoi, au final,
c'est une façon,
ce changement de distribution.
C'est peut-être une façon de me voiler la face et de voir les choses du bon côté, hein. C'est aussi pour ça que mes cheveux sont roses maintenant, c'est que j'ai décidé de voir la vie en rose, donc, je suis du genre, je crois que je suis résiliente. Et je crois que la production nécessite ça. J'ai l'impression que si on s'arrête à chaque échec, si on prend ombrage de chaque nom qu'on nous dit, de chaque personne qui nous fait un mauvais coup, ou même juste une réflexion un peu passive-agressive ou quoi, je pense qu'on n'est pas fait pour ce métier. Ou je pense qu'on devient très malheureux à le faire. Et donc, en fait, j'ai l'impression que, évidemment, dans un monde idéal, j'aurais enchaîné les projets plus rapidement et donc j'aurais pu en faire plus aussi. Et les choses se seraient fait plus facilement, mais en fait je pense que chaque production, chaque temps passé, chaque dossier qu'on fait nous aide et nous apprend beaucoup sur notre métier. Donc au final, je suis très heureuse d'avoir fait les passagers.
Donc pour un prochain projet, ça te fait pas peur de passer 6 ans dessus? On va éviter peut-être, mais tant que faire se peut.
Je pense qu'aujourd'hui, ce que ça m'a appris, c'est de bien choisir les projets et de bien choisir les équipes. Parce que 5 ou 6 ans de ta vie, ou même sur des choses plus raisonnables, on va dire que c'est quand même au moins 2-3 ans, je pense qu'il faut pas, il faut pas se lancer avec des gens à la légère, il faut bien réfléchir sur ce que ça implique et sur tes envies. Et aujourd'hui, je m'interroge aussi beaucoup sur comment mettre en accord ma profession, donc mon métier de productrice, avec mes convictions personnelles, notamment au niveau du féminisme. Et donc, moi, ce dont j'ai envie, c'est aussi de pouvoir produire des projets qui défendent ce genre d'idées, aussi bien au niveau de la composition des équipes, donc de la représentation, de l'inclusivité des équipes, ce qui peut même aller au-delà de la pure parité, et puis ensuite de ce que ça raconte. Et c'est vrai que la réalité virtuelle, étant un domaine qui est très technologique, très technique, et quand même majoritairement encore occupé par des hommes, notamment au poste de création et de technique, qui se rejoignent un peu en plus dans ces domaines-là. Alors peut-être pour des questions de légitimité, peut-être pour des questions de rejet de la technologie, surtout quand elle est encore pas totalement massivement adoptée par une grande partie de la population. On sait que les early adopters de toute technologie sont souvent des hommes urbains, CSP+, plutôt jeunes, etc. Donc aujourd'hui, je réfléchis beaucoup à ça. Je dis pas du tout que je suis exemplaire. Quand je fais la liste des auteurs et des réalisateurs avec qui je travaille, force est de constater qu'il y a pour l'instant plus d'hommes que de femmes. J'essaye de changer ça. J'ai des projets portés par des femmes en ce moment, donc j'espère pouvoir parler bientôt. Mais c'est des questions qui me tiennent à cœur, parce que c'est des questions qui agitent non seulement l'industrie, mais notre société depuis quelques années.
Bien sûr.
Mais que j'aimerais bien aussi, moi, reproduire dans mon travail. Donc oui, je pense que j'ai envie de choisir des projets aussi en fonction de ce genre de convictions que je porte à côté pour que finalement ma vie soit aussi cohérente avec elle-même.
Eh bien, Oriane, merci beaucoup pour ce voyage des passagers. Je pense qu'on a fait 1000 jeux de mots par rapport au voyage, au train, au déraillement, etc. Et donc, je me permets d'en faire un supplémentaire. Merci pour ce témoignage d'opiniâtreté. Et donc, je te souhaite des projets qui se font en moins de 6 ans, mais qui sont tout aussi chouettes que les passagers pour
l'avenir. Merci beaucoup. On va essayer d'être un peu plus rapide maintenant. Promis.
Passant TGV.
Si vous aimez le podcast Nouvelle Narration, parlez-en autour de vous, bien sûr. Et si vous voulez me donner un petit coup de pouce, le meilleur moyen, c'est encore de laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup si vous avez le temps de faire ça. Et dans tous les cas, à très bientôt pour un nouvel épisode de Nouvelle Narration.